On termine cette notre troisième émission cette semaine. Donc, on termine cette première semaine du mois de l'autisme en 2016. Le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme au Québec. J'ai avec moi Sylvie Lauzon, qui est directrice de la Fondation Les Petits Trésors, associée à l'hôpital Rivière-des-Prairies, qui a entre autres cette expertise qui s'est développée depuis plusieurs années sur les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme.
En fait, on en reçoit des centaines et même, je dirais, des milliers par année parce qu'il y a une clinique en autisme. On fait donc de l'évaluation, on fait des suivis en autisme à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Et on a aussi un centre de recherche en autisme. Et ce centre de recherche-là est très performant. C'est le docteur Motron, entre autres, qui en est la figure de proue. Mais je te dirais qu'il y a le docteur Baudouin-Forgeau-Darc. C'est des noms que vous ne connaissez pas, mais si vous punchez ces noms-là dans des moteurs de recherche, vous allez voir qu'il y a des choses qui sortent. Isabelle Soulière, qui, elle, fait de la recherche sur les autistes dans des écoles primaires et qui s'est rendue compte, en fait, à travers ses recherches, que même les petits autistes qui ne parlent pas du tout n'ont pas tous des déficiences intellectuelles. En fait, il y a la déficience intellectuelle d'un côté, tu as l'autisme de l'autre. Il arrive que des autistes soient aussi déficients intellectuels, mais de plus en plus, on se rend compte que même s'ils ne parlent pas, il n'y en a pas de déficience intellectuelle. Alors, ce que ça veut dire, moi, je trouve que c'est génial. Ce que ça veut dire, c'est que si on trouve les moyens d'entrer en contact avec ces enfants-là, parce que les autistes ont une manière différente d'entrer en contact avec les gens, bien, peut-être qu'ils vont pouvoir se développer, peut-être qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils aiment, peut-être qu'ils vont pouvoir déployer leurs ailes et devenir des citoyens engagés et fiers de réaliser quelque chose.
En fait, je reprends un peu vos mots, c'est pas peut-être qu'ils vont pouvoir se développer, c'est plutôt ils vont pouvoir développer leur potentiel.
Oui, c'est en plein
ça. Ce qu'il faut trouver, c'est le meilleur contexte pour permettre à ces enfants-là, à ces jeunes-là aussi, qui vont devenir des adultes. Votre fils, vous-même, a un trouble du spectre de l'autisme. Il a 18 ans. Il est sur le point, il est déjà impliqué dans la société, mais maintenant, sa vie adulte commence.
Il commence à se déployer. C'est une toute autre vie. J'ai deux enfants. J'en ai un de 25 ans qui n'est pas autiste, qui mène une vie donc... Bon, moi, j'ai pas de problème à utiliser le mot normal, anormal. Pour moi, il y a pas de saveur à ce mot-là. Alors, lui, il mène sa vie. Il est autonome. Il est parti. Il vole de ses propres ailes. Il a sa carrière. Et ça va bien. Et il y a Marc-Antoine qui, lui, va falloir l'inventer, la réinventer encore plus sa vie. À 18 ans, le mien, il n'y a pas de déficience intellectuelle, Marc-Antoine. Il y a plusieurs diagnostics. À ce moment-ci, il est encore à l'école secondaire, un petit peu de retard, bien sûr, mais il fait des stages en entreprise. Il y a des entreprises qui prennent ces enfants-là lorsqu'ils sont en école en stage et donc il est en train d'apprendre à travailler. Je n'aurais peut-être pas imaginé ça il y a 2-3 ans. Et quand le manager ou la personne qui s'occupe de lui sur son lieu de travail me dit « On aime beaucoup Marc-Antoine, il travaille bien. » Là, je leur dis « Est-ce que vous avez adapté la tâche? Est-ce que vous lui en demandez moins qu'à un autre? » Non. Et ça, là, moi, ça me soulage, en fait. Et Marc-Antoine, il est fier de lui. Il est fier de lui parce qu'il réalise quelque chose. Et entre vous et moi, là, quand on a 17-18 ans, ça arrive souvent qu'on travaille dans un restaurant, dans la cuisine. Moi, j'ai fait ça, tout le monde a fait ça. Alors, il a l'impression d'être un petit peu comme tous les autres.
Tout à fait.
Tout en demeurant lui-même. Alors, moi, là, et c'est pas toujours le cas. Hein. L'arrivée à l'âge adulte, pour la plupart des autistes, est pas nécessairement évidente parce qu'il faut que tu trouves un milieu de travail qui s'accommode, qui s'adapte à toi, à tes difficultés ou à tes différences. Il faut que ensuite peut-être tu trouves un endroit où vivre si tu peux pas vivre avec tes parents. La quête de l'autonomie n'est pas nécessairement toujours très facile et on travaille beaucoup avec les petits autistes, on les accompagne beaucoup quand ils sont petits et plus ils avancent en âge, plus ils sont à l'école secondaire, là, tu as de moins en moins de support. Alors que c'est là vraiment où on devrait avoir du support à tous les âges. Là,
tout
vraiment.
À fait. Et même à partir de 21 ans, souvent le support diminue, les soutiens diminuent.
Moi, j'ai vu des autistes, là, des jeunes là, intelligents là, qui, à 21 ans, tout à coup, se retrouvent à se bercer dans le sous-sol chez leurs parents parce qu'il n'y a rien d'autre qui s'offre à eux. Alors, tout ce qu'ils ont fait comme progrès, ça s'arrête peut-être là. C'est dramatique et on se prive en tant que société de tout le potentiel et de ce qu'ils ont à apporter. C'est peut-être pas dans la performance qu'ils vont amener quelque chose, mais il y a tellement d'autres affaires qui comptent dans la vie et dont on se prive parce qu'on ne les accueille pas. Mais je dois avouer que ce n'est pas toujours facile d'accueillir une personne autiste, mais on apprend tellement à le faire.
Justement, quand on parle d'accompagnement des jeunes enfants, aussi des adolescents autistes, parce que c'est ce que la Fondation Les Petits Trésors fait.
On supporte l'hôpital qui, elle, offre des soins et fait de la recherche dans le domaine. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. On fait de la recherche. On a le docteur Motron, entre autres, fait de l'imagerie cérébrale. Donc, on regarde ce qui s'allume dans le cerveau des autistes quand ils aiment quelque chose. Il y a des sphères, il y a des bouts du cerveau qui s'allument. Donc, on peut découvrir ce qu'ils aiment, même s'ils ne sont pas capables d'en parler. Toute la perception, toute l'idée autour de l'autisme à l'hôpital, c'est que l'autisme, c'est une autre forme d'intelligence. Mm-hmm. Et c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille. Donc, on se dit, pourquoi les entraîner à être comme les autres, ce que beaucoup de thérapies proposent, plutôt développons leurs forces et travaillons à partir de leurs forces. Alors, ça demande au départ peut-être un plus grand investissement parce que les forces qu'ils ont n'apparaissent pas nécessairement par magie. Il faut des fois plonger. Tu sais, avoir un enfant autiste, c'est un parcours du combattant. D'abord, bon, tu t'en rends compte habituellement dans les eaux de 2 à 4 ans. Là, tu te mets sur des listes d'attente pour être évalué. Il y a ensuite des listes d'attente pour obtenir des soins. Il y a toujours, toujours, toujours des embûches. Et même encore aujourd'hui, moi, je dirais avec mon fils qui a 18 ans, il y a des embûches. Il faut constamment que tu te battes. Alors, c'est pas nécessairement très évident. Mais il y a beaucoup de choses qui sont aussi proposées aux familles, ça, c'est clair. Mm-hmm. Il faut toujours faire preuve... C'est pas évident de choisir dans ce domaine-là. Comme parent, t'as toujours envie. En fait, t'espères toujours au fond de toi, même si je suis quelqu'un de quand même relativement rationnel. Je le sais que mon fils va être autiste jusqu'à sa mort.
Tout à fait, parce que c'est un état. Hein? C'est pas quelque chose que c'est pas une maladie qu'il faut guérir. C'est un état à comprendre et à apprivoiser pour savoir comment réaliser notre potentiel.
Si tu stimules, c'est sûr qu'il va y avoir un développement, puis même dans certains cas, un développement très important. Mais c'est une bataille constante et, c'est un parcours du combattant. Et je sais qu'il va être autiste jusqu'à la fin de ses jours, donc c'est inquiétant de voir là, ce qu'il y a devant lui, parce que lui, il a un plus long bout de vie encore que moi devant lui. Alors, c'est toutes ces questions-là. Quand tu es un parent d'enfant autiste ou d'un enfant différent, je te dirais... C'est pas simple. C'est deux vies. Tu sais, j'ai pu le voir avec mon plus vieux qui, lui, est complètement, tu sais, c'est sûr, c'est mon enfant. S'il y a une difficulté, je vais être là, mais c'est pas du tout la même chose. Là. L'autonomie ne sera jamais probablement la même, mm-hmm. mais je pense qu'à travers chacun leur potentiel, ils peuvent se développer au maximum. Et c'est ce que j'espère pour tous les enfants autistes. C'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça qu'il y a un mois de l'autisme. C'est pour ça que le gouvernement investit. Pas assez, même si l'autisme demeure aujourd'hui une vedette parmi tout le bouquet des maladies ou des états pédopsychiatriques. Là, tout ce qui s'attaque aux enfants, nous, à l'hôpital, on fait des maladies mentales. C'est clair, l'autisme n'est pas une maladie mentale, mais comme c'est dans le cerveau,
c'est un
pédopsychiatre qui s'occupe de ça, alors c'est suivi au même endroit. Mais c'est pas évident. Alors, c'est pour ça qu'on a un beau mois de l'autisme encore.
C'est essentiel, justement, d'en parler. Vous nous avez amené aujourd'hui des documents qui seront publiés dans les prochaines semaines.
Oui. En fait, on va le rendre public. Je vous parlais tantôt du groupe de recherche de l'hôpital Rivière-des-Prairies qui s'appelle le groupe de recherche en neurosciences cognitives de l'autisme de Montréal. Ce groupe de chercheurs-là, ils sont à peu près 7-8. C'est vraiment dans leur domaine des sommités. Ces gens-là sont invités, sont plus connus ailleurs sur la planète qu'au Québec. C'est toujours un petit peu comme ça. Et donc, ils font beaucoup de recherches. Et c'est fascinant parce que le docteur Motron, entre autres, est en train d'évaluer de nouvelles façons d'enseigner aux autistes, ou en tout cas de nouvelles façons pour intéresser les autistes à l'apprentissage. Et il se passe dans ces laboratoires-là des choses fascinantes. Et là, ce que j'ai entre les mains, d'ailleurs, c'est pas encore paru, c'est une espèce de magazine qui s'appelle Sur le spectre, qui va être publié deux fois par année. Et ce sont justement les chercheurs ou les chercheurs boursiers, les étudiants là, de ces gens-là, qui publient, qui vulgarisent les résultats de leurs études. Et c'est fascinant, parce que encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui cause l'autisme. Si on parle de génétique, je pense qu'on est à l'heure actuelle en train d'étudier de 100 à 200 gènes. Donc, c'est pas la question, on trouve le gène, c'est fini. Je pense que ça, c'est, ça sera pas possible dans ce cas-là. On parle aussi, bon, d'environnement. Il y a plein de pistes qui sont explorées. On n'a pas de réponse. C'est que moi, personnellement, en tant que maman, j'ai décidé d'oublier. Cherchez quand vous trouverez, vous me le direz. Moi, je vais m'occuper plutôt d'essayer de faire avancer mon fils, de lui permettre de se développer, de lui permettre de trouver ce qu'il aime faire. Et surtout, j'espère qu'il va être heureux, parce qu'une grande difficulté, je ne suis pas dans ses chaussures, là, mais un autiste qui n'a pas de déficience intellectuelle voit bien comment ça se passe dans le monde autour de lui. Ils sont très conscients, ils voient.
Tout à fait.
Et ils voient bien aussi qu'ils ne peuvent pas, dans tous les cas, faire comme tout le monde. Alors, ce n'est pas évident pour ces jeunes-là, pour ces petits, pour ces jeunes et pour ces jeunes adultes, de trouver leur place et d'être heureux à leur place. Et j'ose espérer qu'avec la Fondation, le support qu'on donne à l'hôpital, toute la recherche qui se fait chez nous et ailleurs, qu'on va leur permettre de se trouver et d'être heureux. C'est mon souhait le plus cher.
Je n'en doute absolument pas que vous contribuez à ce bonheur des jeunes autistes et de leurs familles. Merci beaucoup, Sylvie Lauzon, directrice générale de la Fondation Les Petits Trésors.